Radio Spirale. Aujourd'hui, une discussion autour de Jean-Paul Desbiens, alias le frère Untel, à l'occasion de la publication du livre « De quoi ont-ils peur? 11 lettres insolites du frère Untel au devoir ». La rencontre avait lieu à la librairie Olivieri à l'automne 2010.
Je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce lancement d'un ouvrage dont je suis bien fier d'être le directeur de projet, puisqu'il s'agit des 11 lettres qui ont été publiées dans Le Devoir. Alors, excusez ma manière un peu cavalière de commencer. Je vous présente, j'imagine que vous connaissez déjà à mes côtés M. Bernard Descoteaux, l'actuel directeur du journal Le Devoir. Il y aura aussi tout à l'heure M. Jack Robitaille, qui est un comédien moins connu à Montréal, mais un très grand comédien québécois. C'est mon opinion et je l'assume. Mais Jack a fait surtout carrière à Québec, ce qui explique qu'il est moins connu à Montréal, mais vous aurez l'occasion d'apprécier son grand talent puisqu'il va nous permettre d'entendre le verbe du frère Untel. Jack a sélectionné quelques extraits qu'il va lire tout à l'heure. Nous avions annoncé la présence d'un ami qui restera toujours un ami malgré tout, un violoncelliste qui devait être là, mais pour des raisons qui m'échappent, il ne peut pas y être. Mais on l'excuse, c'est un garçon formidable. Alors, je m'appelle Louis-André Richard, je suis professeur de philosophie au Cégep de Sainte-Foy et chargé de cours à l'Université Laval. Je suis président d'un institut qui s'appelle l'Institut Jean-Paul Desbiens, qui est un think tank de philosophie politique, qui est dédié à Jean-Paul Desbiens, mais qui ne porte pas sur la pensée de Jean-Paul Desbiens. Pourquoi cet institut est dédié à Jean-Paul Desbiens? Parce que M. Desbiens a été mon premier patron et est devenu, à cause de son amour de la philosophie, un ami dans les limites de ce que cela veut dire quand il y a un bon écart d'âge entre les amis. Pourquoi ce détail personnel? Parce que j'ai eu le privilège de côtoyer M. Desbiens pendant une bonne vingtaine d'années, ce qui m'a permis de connaître un peu sa pensée de l'intérieur. Alors, le livre que nous vous présentons aujourd'hui, ce sont les lettres intégrales qui ont été écrites par Jean-Paul Desbiens au journal Le Devoir entre 1959 et 1960. Une objection que vous pourriez faire d'entrée de jeu, c'est « mais pourquoi ?» publier ces lettres qui ont déjà été publiées dans le journal à l'époque et surtout qu'on retrouve en très bonne partie dans le livre « Les insolences du frère Untel » que j'imagine pour la plupart vous connaissez déjà. Eh bien, la réponse à cette objection potentielle ou à cette question est assez simple. Quelque part à la fin mai, j'ai reçu via mon courriel ces lettres envoyées par un frère de la communauté mariste du frère Desbiens que je ne connaissais pas, mais qui avait entendu parler de l'Institut et que l'Institut était dédié à son frère Jean-Paul Desbiens. Il m'envoie ses lettres en disant « On a retrouvé ça, nous les avons numérisées, nous aimerions que vous fassiez une présentation pour éventuellement déposer ça sur un site internet quelque part. » Bien, alors j'accepte de faire la présentation et je lis les lettres en rafale. Et ça a été un choc. C'est-à-dire que ces lettres, quand on les lit en rafale, on a l'occasion de mesurer l'impact social de l'effet, de ce que j'ai appelé l'effet Desbiens. Les insolences, c'est une commande au terme de la publication de ces lettres, une commande de M. Hébert qui voulait qu'on cristallise l'événement autour d'un livre qui contient les lettres, pas toutes intégrales, et qui... Un livre dans lequel il y a des ajouts de toutes sortes, une critique de la faculté de philosophie de l'Université Laval, entre autres, et la lettre à un jeune frère qui est un bijou, qui sont des documents donc qui ont engraissé, si je peux dire, l'ouvrage, le livre comme tel. Mais lire seulement les lettres dans leur intégralité, je vous invite à faire l'expérience, ça permet encore une fois d'apprécier l'ampleur de ce premier... ce premier vox pop que le Québec a connu à travers un journal interposé. Et évidemment, ce projet d'édition, on ne pouvait pas le faire sans avoir la collaboration et la participation du journal Le Devoir. Je remercie vivement M. Descoteaux d'avoir accepté de faire, à l'image de ce qui s'est fait à l'époque de la publication des Insolences, une préface courte, exactement comme André Laurendeau avait fait pour les Insolences du frère Untel. Alors, M. Descoteaux a accepté, et c'était un bonheur pour nous, auprès de l'Université Laval, de compter sur sa collaboration. Donc, ces lettres sont parvenues au Devoir en quantité extraordinaire, et c'était le premier blog, si vous voulez, avant même l'invention de la chose, une réaction formidable de la population québécoise. Alors, le contenu des lettres, vous les connaissez peut-être, nous avons choisi comme titre « De quoi ont-ils peur ?» Les 11 lettres insolites envoyées au Devoir. Alors, je dis un mot sur le titre. Le choix « De quoi ont-ils peur ?» fait référence à la 6e lettre. Ce choix s'est un peu imposé parce qu'à la relecture, nous avons trouvé, l'éditeur et moi-même, que cette question était toujours très pertinente. Si vous avez le bonheur de lire cette 6e lettre, la réponse à cette question qui était une question posée par André Laurendeau, la réponse du frère Untel, c'est très simple. Nous avons peur de l'autorité. Et c'était le mot autorité ici prenait une acception très large. C'était bien sûr l'autorité religieuse, mais Jean-Paul Desbiens étendait beaucoup plus large toute forme d'autorité. Et quand j'ai lu ça, quand j'ai relu ça, je me suis dit, mais où en sommes-nous en 2010 avec ce rapport à l'autorité dans la société québécoise? Et j'ai tout simplement le goût de vous reposer la question, je ne cherche pas à donner de réponse, mais il me semble qu'à bien des égards, peut-être, cette peur est encore présente, mais évidemment elle a subi plusieurs métamorphoses. Il me semble qu'il y a encore, quand je pense par exemple, mon dernier ouvrage porte sur les accommodements raisonnables, quand toute cette commission, tout ce malaise autour des accommodements raisonnables, je me suis dit, il y a peut-être un lien avec cette mutation de la peur des Québécois, qui compose mal encore avec la présence de l'étranger, surtout quand on regarde ça sur le plan des valeurs religieuses. Alors, je laisse ça comme peut-être tout à l'heure aurons-nous l'occasion de discuter et puis essayer de répondre à ces questions. Et les 11 lettres insolites, pourquoi insolites? Ben, le côté insolite, c'est sûrement l'effet que ces lettres ont produit. Parce que Jean-Paul Desbiens, pour mémoire, quand il a écrit la première lettre, c'était une lettre personnelle adressé à une personne, André Laurendeau. Il était frère mariste et les règlements dans les communautés interdisaient à un frère d'écrire dans le journal et de signer quoi que ce soit sans avoir une permission, une obédience spéciale. Monsieur Laurendeau lit la lettre, il est très impressionné par son contenu et décide de la publier, et c'est André Laurendeau qui a signé frère Untel pour protéger le frère Desbiens. Le frère Jérôme, à l'époque, le protégeait contre l'autorité de la communauté. Et c'était donc insolite, la réaction. À partir du moment où la première lettre a été publiée, M. Robitaille va nous en lire de larges extraits tout à l'heure, la réaction du public a été fulgurante. C'est insolite, donc, de voir l'effet que cela a produit. Et en rafale, en chaîne, chacune des autres lettres ont suscité le phénomène qu'on connaît bien. Alors, insolite, la réaction du public. Insolente, le contenu. Quand pour Jean-Paul Desbiens, ça a été le temps de donner le titre du livre, Les Insolences du frère Untel, il a vite compris que ce qui se dégageait de tout cet échange épistolaire, c'était la vive critique, la forte critique que vous connaissez peut-être, qui a ébranlé le Québec. Alors, nous avons choisi Insolite, en clin d'œil à l'insolence, parce que manifestement, il y a un lien. Je disais, l'origine du mot, et Jean-Paul Desbiens aimait bien l'origine des mots, parce que, comme je le disais à Joël Lebigot samedi matin, la langue, c'est l'effet, c'est le signe de la pensée. Si la langue est désossée, il arrive parfois que c'est le signe que la pensée l'est aussi. Alors, il était très, très attaché à cette origine des mots. J'ai le goût de vous laissez un peu la parole, M. Descoteaux. Je me sens mal à l'aise de parler à votre place pour que vous nous disiez peut-être un mot sur, justement, cette implication du devoir dans ce phénomène de la publication des lettres.
Oui, j'aime beaucoup le parallèle que vous faites avec les blogs. Je pense que la relation entre les journaux, les journalistes et les lecteurs a toujours été quelque chose d'important. Et à l'époque, on sait qu'à la fin des années 50, Jean-Paul Desbiens, le frère Jérôme, n'était pas le seul à écrire au devoir. Parmi la communauté enseignante, là, et autant civile que religieuse, et qui était très perturbée, très inquiète de l'évolution de la société québécoise. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, j'ai suggéré à M. Richard de publier dans le livre le texte de André Laurendeau, qui a été un peu le point de départ de la réaction du frère un tel. Laurendeau signait des billets à l'époque sous le nom de Candide. Et il raconte, dans le fond, dans ce billet, tout simplement, ça s'intitule « La langue que nous parlons ». Et il raconte qu'en écoutant la télévision, des gens disaient que notre langue parlée s'améliore tous les jours, et dans ce billet, il conteste que non, c'est pas vrai que la langue parlée ne s'améliore pas, et que même ses enfants qui fréquentent de bonnes écoles, ses neveux, nièces et leurs amis, non, c'est pas vrai que la langue s'améliore, au contraire, et c'est ce qui le point de départ, ce qui provoque la réaction du frère Jérôme, et qui l'écrit à André Laurendeau, qui va pendant quelques jours dormir sur cette première lettre-là et savoir qu'est-ce qu'il va en faire, et décide de la publier parce que c'est trop important d'une certaine façon. Et c'est une intuition vraiment remarquable parce que on est en 1959. Duplessis vient de mourir il y a quelques semaines plus tôt. Le Québec est déjà en transformation. Paul Sauvé est arrivé. Il a prononcé son fameux mot « désormais », ça va changer. Et ce que le frère Untel fait, c'est un grand coup de pied qu'il donne. On a parlé de lettre coup de poing, mais en fait, c'est un grand coup de pied qu'il donne dans la fourmilière. Et je pense que c'est un des éléments marquants. Un des grands repères de l'histoire du Québec en termes de transformation de notre société. C'est un point de départ. Et ne serait-ce que pour cette raison-là, au plan historique, au plan aussi de... parce que l'histoire se répète éventuellement, et on le dit que l'histoire a le hockey d'une certaine façon. Les lettres sont toujours d'une certaine façon d'une grande actualité aujourd'hui, par rapport à la qualité de la langue française notamment. Il y a bien des choses qui ont changé, oui, l'autorité, le rapport à l'autorité n'est plus le même, mais le point de départ, qui est la qualité de la langue, ça demeure une préoccupation qui est toujours d'actualité.
Voilà, alors, on peut vous donner des recettes de gâteaux, mais il n'y a rien comme d'y goûter. Je pense que nous allons inviter notre ami Jack à lire la sélection de textes qu'il a préparée.
Excuse-moi, Louis-André, je vais prendre un petit point de table.
Je ne toi pas, comme d'habitude.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Jack Robitaille. Ben, je remercie Louis-André de m'avoir associé à ce lancement. Je suis très content. J'ai pu lire avant vous les lettres au devoir, et je dois dire que j'ai été extrêmement impressionné. Et je vois mon camarade violoncelliste qui est derrière. Est-ce que ça te tente de venir jouer un peu?
Ah, bon.
Écoute, ben, pendant que je vais lire la première lettre, Vincent, installe-toi, je sais pas trop où, là. vous voyez que c'est à la bonne franquette. Approche-toi. Louis-André, occupe-toi donc du musicien, s'il vous plaît, là.
On va lui donner ta chaise.
Ouais, absolument. Absolument. Mets ça quelque part, les vêtements, là, trouve-toi une place. Parfait. Alors. Extrait de la lettre numéro 1. Je trouve désespérant d'enseigner le français. 3 novembre 1959. Je viens de lire votre actualité du 21 octobre touchant le langage. Je suis d'accord avec vous. Nos élèves parlent joual. J'enseigne dans une petite ville d'une région très française de la province depuis 2 ans. Une 11e année commerciale. Mes élèves parlent joual, écrivent joual, ne veulent pas parler ou écrire autrement. Le joual est leur langue. Les choses se sont détériorées au point où ils ne savent même plus déceler une faute qu'on leur pointe du bout du crayon. L'homme que je parle, nous allons se déshabiller. Cela ne les hérisse pas, cela leur semble même élégant. C'est trop vite fait de rejeter le tort sur l'école ou d'ironiser sur les concours de bon langage. En vérité, le problème est ailleurs. Nos élèves parlent joual parce qu'ils vivent joual. On ne réglera rien en agissant sur le plan du langage, concours, campagne, congrès, etc. C'est sur la civilisation qu'il faut agir. Cela aussi est vite dit. Enfin, quand on réfléchit au problème et qu'on en arrive à la question « quoi faire ?», on est désespéré. Quoi faire ? Que peut un instituteur pour enrayer la déroute ? Tout ce qu'il gagne est aussitôt perdu. Les efforts qu'il fait sont dérisoires. Dès 4 heures de l'après-midi, il commence à avoir tort, car toute la civilisation le nie, nie ce qu'il défend, piétine ou ridiculise les valeurs qu'il prône. Direz-vous que je suis pédant ou que je remonte au déluge, si je me rappelle ici le mot de Bergson sur « la nécessité d'un supplément d'âme ». Nous vivons joual par pauvreté d'âme. Nous parlons joual par voie de conséquence. Je pense qu'il n'y a aucune différence substantielle entre la dégradation du langage et la désaffection par rapport aux libertés fondamentales que révèle l'enquête du McLean's que vous avez commentée à 2 reprises. Quand on a renoncé aux libertés fondamentales, comme il semble que la jeunesse l'ait fait, on renonce facilement à la syntaxe. Et les apôtres de la démocratie, comme les apôtres du bon langage, font figure de doux maniaques. Nos gens n'admirent que machines et techniques. Ils ne sont impressionnés que par l'argent et le cossu. Les grâces de la syntaxe ne les atteignent pas. Je me flatte de parler un français correct. Je ne dis pas élégant. Je dis correct. Mes élèves n'en parlent pas moins joual. Je ne les impressionne pas, je leur échappe plutôt. Pour me faire comprendre, je dois parfois recourir à l'une ou l'autre de leurs expressions joualisantes. Nous parlons 2 langues, eux et moi, et je suis le seul à parler les 2. Signe. Le gouvernement, par le biais de divers organismes, organise des cours du soir. Les cours les plus courus sont les cours d'anglais. Tout le monde veut apprendre l'anglais. Il n'est évidemment pas question d'organiser des cours de français. Nous sommes une race servile. Mais qu'est-ce que ça donne de voir cela? Voir clair et mourir. Beau sort. Avoir raison et mourir. Signe! La comptabilité s'enseigne en anglais, avec des manuels anglais, dans la catholique province de Québec, où le système d'éducation est le meilleur au monde, puisque les évêques siègent aux réunions du département de l'instruction publique. Dormons, dormons, d'autres veillent. Signe! On organise une 13e année dans certaines localités, dont ici. Le programme très spécial des classes comporte 4 heures de français par semaine et 5 d'anglais. Nous sommes une race servile. Quoi faire? Quand je pense liberté. Sitôt que je veux agir, c'est le dirigisme qui pointe l'oreille. Il n'est d'action que despotisme. Pour nous guérir, il faudrait des mesures énergiques. 1. Contrôle absolu de la radio et de la télé. Défense d'écrire ou de parler petit nègre sous peine de mort. 2. Destruction par la police provinciale en une seule nuit de toutes les enseignes commerciales anglaises. 3. Autoriser de tuer à bout portant tout fonctionnaire, tout instituteur, tout curé qui parle joual. Mais cela ne serait pas encore agir sur la civilisation. Ferons-nous l'économie d'une crise majeure? Ferons-nous l'économie d'un péril mortel qui nous réveillerait? Mais à quel prix? Là-dessus, je vous assure de mon estime, frère, un tel. Et mon cher Vincent, ce sera un moment pour intervenir. Lettre numéro 4. Frère un tel est un traître. 6 avril 1960. Monsieur Laurendeau, Mademoiselle M.M. affirme que son opinion vaut bien la mienne. D'accord. Et son opinion, c'est que j'aurais dû expliquer l'eau Canada à mes élèves au lieu de les ridiculiser à la face de la province. Il y a malentendu. Il n'y a que ça, des malentendus. Voyons un peu. Ah, j'ai fait écrire la première strophe de notre hymne à mes élèves. Les résultats furent affligeants. Je me suis dit, mes élèves ne sont pas plus bêtes que les autres. J'ai extrapolé. L'ignorance des élèves de X doit être celle des élèves de partout. B. Deuxième moment de mon expérience. Je songe au devoir comme tribune provinciale. Le devoir est lu par tous ceux qui comptent. Il n'y a pas que le tabac qui compte. Via le devoir, je comptais atteindre une partie notable des enseignants. Je ne me suis pas trompé. Un peu partout, on a eu l'idée de répéter mon expérience. Voilà donc quelques centaines d'élèves qui savent maintenant écrire la première strophe de notre hymne national. C'est un début. C. Quant à avoir eu l'idée d'expliquer l'hymne national à mes élèves au lieu de les ridiculiser, je peux dire que c'est fait. Et ce fut fait bien avant que Mademoiselle M.M. me le suggère. Un professeur normal a ce réflexe normal en face d'une ignorance aussi flagrante que celle que révélait l'expérience d'aller à la racine du mal, l'incompréhension. J'ai donc expliqué la première strophe de l'eau Canada devant tous les élèves réunis dans la salle de l'école. Les paroles avaient été écrites sur une grande surface et chacun pouvait suivre les explications. Je compte faire le même travail à propos de la seconde strophe, celle où l'on rencontre le « il est né d'une race fière ». Il nous en reste si peu de fierté. D. Dernière remarque. La réaction de Mademoiselle M.M. est caractéristique d'une mentalité d'assiégé. C'est Gérard Pelletier qui notait la chose un jour dans « Cité libre ». Quelle lecture vous avez, mon petit frère, quelle lecture! Quiconque au Québec se mêle d'écrire autre chose que 2 plus 2 égale 4 est un sale oiseau, un qui salit son nid. Au pays des assiégés, quiconque ne pense pas comme tout le monde, c'est-à-dire comme personne, prend automatiquement l'allure d'un espion à solde, d'un cinquième colonnard, d'un méchant. Il faut dire que nous sommes 150 ans en avance des pays d'Europe, ou ne rien dire, ou alors le dire sous couvert de l'anonymat, comme je fais courageusement, frère un tel. Merci Vincent. Extrait du Retour du frère un tel, texte inédit produit d'une rencontre entre Jean-Paul Desbiens et Louis-André Richard le 28 octobre 2004. Quand les insolences sont parues, en quoi c'était si urgent de travailler comme je l'ai fait, à la hache? Ça me paraissait urgent, en effet, mais ce que je voulais surtout dire par ce début-là, je voulais surtout signifier par ce travail au lecteur, j'ignorais totalement combien il y en aurait et on sait qu'il y en a eu passablement, je voulais surtout signifier que je n'entrerai pas, d'ailleurs ce n'est pas mon genre ni mon tempérament d'entrer dans des mitaines infinies et dans des précautions à n'en plus finir. Je voulais leur dire que les questions que j'aborderais, que je les aborderais directement. Et sans précaution, ni pour moi, ni pour ceux qui avaient à les recevoir, qui auraient à les recevoir. Au bout du compte, il s'est avéré, et tout ça a été expliqué longuement et par moi-même dans d'autres volumes, tout ça a pris la forme des insolences, et qui au fond sont essentiellement trois choses. Une critique de la langue parlée à l'époque et encore maintenant, on pourra revenir sur cette question-là. Une critique de l'atmosphère religieuse au Canada français, et une critique du système scolaire en général. C'est essentiellement les trois thèmes que j'aborde dans les insolences. Je les ai d'ailleurs abordés sans plan préconçu, et je me suis souvent expliqué là-dessus. L'état du français chez nos élèves a donné lieu à une série d'articles, soit dans la presse, soit dans Le Soleil. Il y a beaucoup dans le journal Le Soleil qui confirment une opinion. C'est plus qu'une opinion, c'est une certitude que j'ai depuis assez longtemps, et j'ai même publié à ce sujet dans un volume qui s'appelle « L'école, pourquoi faire ?», publié aux éditions Logique en 1994, où je disais donc que la qualité de la langue est aussi mauvaise, sinon plus, qu'en 1960, et que les professeurs et les administrateurs sont effectivement coupables ou responsables à ce sujet. Et que les remèdes seraient simples, vraiment simples, mais qu'il faudrait une volonté politique pour les appliquer, ces règles-là. Et j'en donnais une, dans le volume dont je parle. Je disais qu'à la fin du cinquième secondaire, on devrait donner une dictée de 253 mots. J'allais jusqu'à préciser comme cela. Ce n'est pas énorme, mais je disais que n'importe lequel élève de secondaire 5 ou cinquième secondaire qui ferait plus que 5 fautes ne devrait pas être autorisé à monter au niveau collégial. Ça, ça ne s'est jamais fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau collégial, on donne des cours de mise à niveau en français. Mais pendant ce temps-là, on ne fait pas autre chose. À la fin du collégial, on fait l'équivalent, c'est-à-dire on laisse passer des élèves qui ne devraient pas accéder plus haut, parce que la langue, c'est l'instrument universel de compréhension de soi-même et pour les autres quand on communique. Et si on parle des maîtres en particulier, cette règle-là devrait être encore plus dure, et surtout pour les futurs maîtres. Je sais par exemple, parce que je viens d'y aller récemment, que l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, depuis sa fondation en 1967, a formé plus de 70% de tous les enseignants. Moi, j'aimerais mieux dire les maîtres, en tout cas, les enseignants du Grand Montréal, et près de 40% de tous les enseignements du Québec, je parle depuis sa fondation. C'est dire l'influence qu'elle a eue sur l'enseignement en général et qu'elle aurait pu avoir en particulier sur le français. Je ne suis vraiment pas juge pour dire quel est le degré de responsabilité de l'UQAM en particulier, puisque c'est cette université-là dont nous parlons. Mais il y en a certainement une responsabilité. Je reviens toujours à la même chose. On laisse continuer, on laisse des élèves progresser vers plus haut ou vers des degrés plus avancés sans s'être assuré qu'ils maîtrisent convenablement la langue française, l'outil universel.
Conviendrait avec moi, pardon, que ça valait la peine d'attendre. Ah non, mais tu es arrivé au bon moment, vraiment.
Montréal est en colonisation.
Oui. Nous, pour arriver à l'heure, il a fallu partir à 6 heures du matin de Québec. Puis on est arrivé tout juste. Ah, qu'est-ce que tu veux? Alors, ça vous donne l'occasion d'apprécier le verbe de Jean-Paul Desbiens et les questions que ça soulève. Je ne veux pas étirer indûment cette présentation et plutôt avoir l'occasion d'échanger avec vous sur les différentes questions ou commentaires que vous pourriez faire dans le but de éventuellement vous donner le goût de lire ces lettres de manière par vous-même, de manière intégrale. Je partage cependant, avant de le faire, une préoccupation. Quand j'ai pris la décision d'éditer les lettres, c'était entre autres parce que j'arrivais devant un mur. J'enseigne la philosophie depuis 30 ans. Je dois à Jean-Paul Desbiens que la philosophie soit restée obligatoire au Québec et je suis très heureux de ça. Je pense que l'enseignement de la philosophie au Québec a beaucoup progressé, s'est amélioré. On fait un travail de très grande qualité en général. Mais l'homme qu'est Jean-Paul Desbiens est passé dans un oubli pratiquement complet. Et j'ai toujours, au fil des années, fait lire les insolences à mes étudiants en dehors des cours. Donc, j'ai suivi les générations. Et jusqu'à tout récemment encore, quand on fait lire ces insolences, les étudiants me disent « Mais que c'est actuel? Ça brasse les mêmes problèmes. On pense comme ça aussi. Le rapport aux religieux, on comprend pas trop où on est rendu avec ça. Le rapport à la politique et tout. » Et ils aiment ce verbe très tranchant qu'est celui de Jean-Paul Desbiens. Alors, une de mes grandes interrogations, c'est comment se fait-il que nous ayons oublié, et lui avec d'autres, mais lui particulièrement, si rapidement, un homme de cette envergure. Alors, c'est sûr que le projet d'éditer les lettres, c'est pour donner encore un souffle à ça, mais c'est difficile d'attirer l'attention des gens. Alors, c'est une question que je pose, en fait. Comment en sommes-nous venus à avoir une mémoire si courte? Et comment ferons-nous pour raviver un peu la mémoire? Parce qu'on construit quand même son avenir à partir des bases que l'on brise, que l'on transforme, que l'on assimile, mais il faut encore reconnaître ces bases. Et puis, c'est une préoccupation de philosophe, en tout cas, que j'ai, là, sur l'avenir du Québec à travers son rapport à son passé, et particulièrement à travers la trace qu'a laissée Jean-Paul Desbiens. Alors, s'il y a des questions, des commentaires, si M. Descoteaux, vous voulez ajouter quelque chose, hein, vous y allez également.
Ouais. Au-delà de l'enseignement de la philosophie, il y a l'enseignement de l'histoire.
Ben absolument, oui, oui, ben oui, ben oui, tout à fait. Alors, on m'a demandé si vous vouliez poser des questions de le faire au micro. Peut-être quelqu'un peut se balader avec pour éviter que les gens viennent ici. Ou placer comme ça, bon. Les gens de loin, comme ça va entrer dans... Oui. Bon, d'accord. Pas seulement la glace, mais enfin...
Alors, bonsoir, mon nom, c'est Normand. Moi, disons que cet intérêt pour la langue, ça a toujours été une primordialité pour moi. Moi, je suis natif de la Gaspésie. Et puis, celui qui osait parler bien français, on était passé pour des tapettes, des bonguins, des feluettes, en fait, contre des accultures. Parce que la culture des terriens, des gens qui étaient de petits métiers, était toujours fonction de l'intérêt de survie. Par rapport aux grandes familles, le Gaspésie, c'était vraiment un terreau spécifique. Il y a peut-être personne, beaucoup, qui ont vécu là, de par ici, mais moi, je suis natif de là. Par contre... Moi, je me rends compte que les grands-mères ou souvent les personnes qui étaient pas tellement, disons, instruites, mais qui avaient un souci de la langue. Parce que nous autres, on est franchement de source française, d'un français pur, d'un français qui était quand même émaillé, beaucoup de symbolisme, une recherche de pureté, disons. Une recherche de pureté, c'est ça le vrai terme, j'oserais parler. Mais tantôt, on a parlé de l'histoire. Moi, j'adore l'histoire parce que c'est le début de toute chose, de toute l'inéité de l'être humain, la théologie de l'être. Moi, quand je lisais, j'ai commencé à lire, premièrement, j'étais féru toujours d'écrire bien. Et on a eu peut-être des petits professeurs, mais en même temps, on a eu quelques-uns qui avaient un souci, bien, qui n'étaient pas à un niveau élevé qu'académique, un souci de développer puis de garder. Là, on avait toujours la dictée, une petite école de rang, là. Système seigneurial des ancêtres, là, de l'ancien système Nouvelle-France. On avait une dictée pratiquement tous les jours. Puis notre professeur faisait un ajustement, il nous corrigeait, puis il fallait vraiment obtenir pas de... Mais le canadialisme et l'anglais ici, souci de fonctionnaires, de la technologie, il y a eu une coupure, je pense, à partir des années 60, la révolution culturelle, avec la montée de l'industrialisation plus poussée. Ça n'a pas aidé beaucoup, je crois. Mais je pense aussi que il faut pas désespérer. Moi, j'en fais partie d'un cercle littéraire. Je veux toujours conserver cette langue-là parce que je veux travailler pour la garder aussi, parce que on peut pas faire un peuple sans avoir une fierté, première chose. Si t'as pas de fierté, ben tu te garoches dans l'argent puis dans le loisir puis occupe-toi de son ego malade là, parce qu'on est dans un ego malade maintenant dans cette société. On pense jamais aux autres, aux plus pauvres. On sait toujours moi puis mes petites affaires puis mes bébelles puis bye bye. Mais sur ça, moi le frère Antel, j'ai commencé à lire aussitôt qu'il a choisi puis j'ai trouvé, parce que la religion, moi, j'ai détesté les religieux, vous savez pas comment. Vous savez pas comment, parce que j'ai souffert beaucoup à cause de la maladie mentale d'un parent qui ne fonctionnait pas du tout. Voyez-vous, on se faisait toujours comme garocher dans une petitesse devant tout le monde, des classes sociales plus élevées. Moi, ça m'a apporté la révolte. Je n'ai jamais accepté ça. Et j'ai rejeté la religion à 5, 6 ans, 7 ans parce que je voyais trop bien ce qui se passait dans ce système-là. Mais tous les Québécois, je crois, on a toute notre part de réalisation. Il faut être fier du autre. Moi, je crois qu'il faut garder cette fierté-là. Je lis le Devoir tous les jours, passe, hein, M. Descoteaux. J'adore le Devoir parce que c'est un journal qui nous donne la part de la vérité qu'il faut la chercher beaucoup, très profondément. Il y a le frère Antel, je commençais à lire, puis je dis, quel éveilleur. Il était une personne intègre, tellement intègre, puis tellement fier. En tout cas, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Parlez assez longtemps, je pense. J'ai fait assez de dégâts aussi.
Bien, bien. La glace est cassée. Quelqu'un veut ajouter quelque chose?
Je veux enchaîner tout de suite sur ce témoignage parce que je pense que Jean-Paul Desbiens a écrit pour des hommes comme vous, monsieur. Il aimait les hommes comme vous. Lorsqu'il a fait, quelques mois après le lancement des Insolences, l'apparition à la télévision avec Judith Jasmin, vous savez, ça a été la première fois qu'on voyait Jean-Paul Desbiens à la grandeur du Québec. Et quand il a fait une très belle prestation, là, il était aussi vrai que son écriture dans cette émission. Mais quand il est sorti de là, il avait un regret. C'est qu'il avait oublié de parler d'ouvriers qui avaient lu les Insolences du frère Antel, puis qui avaient envoyé au frère, en plus d'une lettre et plein de petits mots, de félicitations, il lui avait envoyé une boule de métal. Parfaitement circulaire, parfaite techniquement. Et il s'en voulait de ne pas avoir mentionné la chose à Judith Jasmin. Parce qu'au fond, le frère, il est issu comme les congrégations enseignantes d'ailleurs, masculines, il est issu du peuple. Il vient d'une famille de pauvres parmi les pauvres. Et ça n'a jamais été un arriviste, cet homme-là. Il a toujours parlé de langue, mais toujours parlé de sens. Il a toujours voulu donner la voix à ceux qui ne l'avaient jamais pris, la parole à ceux qui ne l'avaient jamais pris. Et le fait que vous vous soyez manifesté, là, le premier pour venir parler, je ne peux pas voir autrement qu'une correspondance tellement naturelle avec ce qu'il a toujours voulu faire. D'ailleurs, le grand succès des Insolences, je vais terminer là-dessus, le grand succès des Insolences, c'est parce que non seulement les intellectuels ont été interpellés par ce livre, Hein? André Laurendeau et tous les autres se sont mis derrière Jean-Paul Desbiens. Mais c'est parce que aussi c'était un succès populaire, parce que la langue qu'il avait était tellement vraie, authentique, vibrante, que tout le monde se reconnaissait là-dedans. Vous savez, si M. Hébert a décidé de faire un livre, c'est parce qu'il avait vu ses linotypistes parler des lettres. Ses linotypistes de l'imprimerie des Éditions de l'Homme parlaient des lettres sur l'heure du midi. Alors quand on voit des ouvriers captés par un élément comme ça, on se dit qu'il y a quelque chose qui court dans le peuple. Il y a quelque chose qui court dans la société. Et je pense que c'est ça, Jean-Paul Desbiens. C'est quelqu'un qui était vivant parmi le vivant. Voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ajouterais juste un mot là-dessus, parce que c'est une chose que Jean-Paul Desbiens m'avait confiée. Vous savez que c'est vraiment c'est un succès populaire d'abord et avant tout. Et les intellectuels ont suivi. Et André Laurendeau lui disait à un certain moment, profitez de la vague parce que plusieurs sont vos ennemis. Plusieurs des intellectuels de l'époque n'aimaient pas les propos de Jean-Paul Desbiens. Parce que ce qu'on a entendu au point de départ, et c'est très juste de dire que c'est formidable que la première intervention ait été quelqu'un qui venait de la Gaspésie, qui était d'origine plus modeste, il faut saisir, il faut comprendre que les propos de Jean-Paul Desbiens sur la religion, par exemple, c'est quelque chose de très paradoxal. Cet homme m'a toujours impressionné, je lui disais d'ailleurs, parce que il a été perçu au début, à l'époque des insolences ou des lettres, comme quelqu'un de gauche, un éveilleur, quelqu'un qui vient brasser la cage et qui retourne tout à l'envers. Mais il est mort avec la perception de quelqu'un ultra de droite. C'est l'opinion qu'on avait de lui, parce qu'il a toujours été fidèle à sa vocation. Et il ne cessait de me dire « je ne démoinerai pas », vous connaissez peut-être l'expression, « je ne sortirai pas de la communauté ». Et il y a quelque chose de très fort dans ce personnage qui m'apparaît comme un parangon important pour nous les Québécois, quelqu'un qui est fidèle, fidèle à sa vocation au sens large, fidèle à son humanité, à sa critique et tout. Il l'a été jusqu'à la fin contre vents et marées. Alors à l'époque où c'était de bon ton d'être de gauche, il a brassé la cage, à l'époque où c'était le contraire, il a brassé la cage encore. Et c'est peut-être là le trait caractéristique des hommes libres. En tout cas, cette dynamique entre le peuple qui est vraiment celui qui a porté ou qui a popularisé la pensée de Jean-Paul Desbiens versus une certaine forme d'intelligentsia qui contestait les choses, mais qui a bien dû se ranger. Et puis tout ça, ben ça l'a transformé l'horizon politique et culturel québécois. Et André Laurendeau, de ce point de vue-là, encore une fois, pour rendre hommage au devoir, a été un ami très proche de Jean-Paul Desbiens. Et M. Laurendeau, qui lui-même était un grand intellectuel, était de son côté. Il savait donc voir où étaient les vrais amis et les ennemis.
C'est sûr que la qualité de la langue moyenne au Québec a progressé comparativement à l'époque du frère Untel, de ses lettres, parce que, bon, à cause de la réforme de l'éducation, du rapport parent, de la démocratisation de l'éducation, alors, de manière générale, oui, la langue a progressé. Il y a une fierté qui s'est installée aussi par rapport à la langue. On a adopté la loi 101 qui a été un facteur très important. Mais ce que le frère Untel disait par rapport à l'anglais, ça demeure des préoccupations. Je pense qu'il l'a exprimé de façon assez rapide dans sa première lettre. Le côté servile des Canadiens français par rapport à l'utilisation de l'anglais, on enseignait l'anglais davantage que le français en 12e ou en 13e année, dans une région aussi francophone que le lac Saint-Jean. Alors ça c'est une transformation importante, mais je pense que s'il avait pu y réfléchir davantage, il aurait pu situer ce problème-là dans un contexte politique plus large, celui de la lutte pour la survivance de la langue française, la culture française dans un contexte nord-américain. de minorités des Canadiens français, des Québécois francophones aujourd'hui. Et ça, ça demeure, cette préoccupation-là. Et c'est toujours, je pense, la principale menace qui pèse sur la langue française, la qualité. On a eu le sommet de la francophonie il y a quelques jours, et pour une fois, bon, on a adopté une résolution et des politiques pour défendre la langue française dans les institutions internationales. Le français, par exemple, aux Nations Unies, est une des 4 ou 5 langues officielles, mais même les officiels français, les porte-paroles du gouvernement ne prennent même pas la peine de parler français. Bien sûr, la langue française n'est plus la lingua franca qu'elle était au 17e ou 18e siècle. C'est devenu l'anglais, il faut le reconnaître. Mais cette fierté de défendre la langue française à travers le monde, c'est une préoccupation et je pense que c'est des choses qui demeurent. Et à cet égard-là, de se faire rappeler que par la publication de ces lettres-là de l'importance de la qualité de la langue, de ce que ça apporte de bien connaître sa langue, la langue c'est la communication, et on voit à quel point que les gens qui ne maîtrisent pas leur langue ont de la difficulté à communiquer, à se faire comprendre, à se faire valoir, et ça sera toujours une valeur universelle de l'éducation.
Mm-hmm. Tout à fait. Oui. On s'excuse de vous obliger à venir au micro, mais c'est pour la captation.
Il est utile de puiser dans notre histoire des figures qui peuvent nous stimuler et nous aider à aller dans la bonne direction. Nous avons commencé cette soirée de cette partie d'intervention de la salle par un monsieur qui venait de Gaspésie. Je vous rappelle qu'il y a un homme immense qui avait une langue française extraordinaire, capable de communiquer vraiment avec des gens de tous les milieux, depuis les gens les plus simples jusqu'aux étudiants d'université. Et on oublie de penser à cette dimension de sa personnalité. Je parle de René Lévesque, originaire de Gaspésie, et dont la langue comme communicateur était extraordinaire. J'ai eu l'occasion, puisque je suis historien de la radio, d'écouter un certain nombre de ses reportages, de lire des textes qui étaient également publiés dans les journaux à partir de ses reportages en Corée ou des textes qu'il a faits quand il était en Angleterre. Et la langue de René Lévesque a toujours été d'une très grande richesse. Non pas une correction académique guindée, une correction de richesse, d'amplitude et capable d'avoir toutes les fantaisies requises pour aller capter un auditoire. Il me semble que le souvenir de René Lévesque peut nous aider à penser qu'on peut faire encore des choses.
Merci. Jean-Paul Desbiens était bien fier de dire que dans son bureau au campus Notre-Dame-de-Foy, René Lévesque avait passé 2 heures à prendre toutes sortes de moyens pour le convaincre d'être ministre de l'Éducation, ce qu'il a refusé. Bien, on peut peut-être continuer, pour ceux qui ont le loisir de le faire, notre petite discussion de façon plus intime en partageant un peu le vin et quelques bouchées. Je remercie très, très chaleureusement M. Descoteaux d'avoir eu la gentillesse de venir ce soir. Et évidemment, le violoncelliste et puis notre acteur d'avoir prêté la voix de l'instrument et la voix humaine pour appuyer ce lancement. Alors, je vous souhaite de bien profiter du temps pour lire Jean-Paul Desbiens, mais mieux encore, d'être des courroies de transmission pour les jeunes générations. Trouver la façon de faire en sorte que, quand on parle de l'enseignement de l'histoire, j'ai toujours été étonné que ce ne soit pas manuel obligatoire. Et une anecdote pour terminer, j'ai un fils qui maintenant est au cégep, et quand il était en 6e année, avec la nouvelle pédagogie par projet, son professeur avait eu l'idée de faire un projet sur la Révolution tranquille. Très bonne idée. Et ce professeur jeune, plein de bonnes intentions, ignorait qui était Jean-Paul Desbiens. Et j'avais dit à mon fils, tu sais, Monsieur Desbiens, le frère un tel, tu peux proposer qu'il aille dans ta classe, puisqu'on nous le connaissons bien. Je finis avec cette anecdote parce que j'ai une image que je n'oublierai jamais. Jean-Paul Desbiens, vous savez, il était plutôt grand. Hein? Et je le revois dans la classe de mon fils, assis sur une petite chaise d'écolier, donc tout replié sur lui-même, tenant son livre ainsi, le sourire jusqu'aux oreilles, et il était tout fier de présenter cet homme sur la jaquette qui était lui-même. Et c'était, j'ai trouvé ça formidable, je lui avais dit en sortant, j'ai dit, vous venez de vous faire une nouvelle carrière, je vous lâcherai pas, vous allez rentrer dans les écoles maintenant. Mais malheureusement, la maladie l'a emporté quelques temps après. Je voyais là une occasion de permettre aux très jeunes générations de faire le pont avec ses origines. Ça ne pourra pas se faire comme ça désormais, mais il faut trouver la façon de transmettre cet héritage qui m'apparaît être très, très important. Alors, je vous remercie de votre attention et puis au plaisir.